Il s'agit de la jalousie. Vous savez qu'elle est arrivée très très vite dans notre monde à partir du moment où il y a eu deux frères. À partir du moment où il y a eu deux hommes qui pouvaient rivaliser entre eux, la jalousie est arrivée. Bon, il y avait bien sûr Adam également, mais Adam était seul avec son épouse. Quand il y a eu plusieurs hommes, très vite, ce problème est apparu. Je pense que nous avons tous besoin de reconnaissance. Et que le regard des autres est beaucoup plus important que l'on peut se l'imaginer. On ne s'en rend pas toujours compte. Et si, en fait, ce péché est apparu si tôt et est bien présent dans l'Écriture, c'est qu'en fait, alors nous sommes concernés. Sans tarder, nous allons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 4, verset 1er, ce récit fratricide, malheureusement. Genèse chapitre 4, verset 1er. Jusqu'au verset 8. Genèse 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Terrible récit, malheureusement. Il s'agit d'un premier frère et l'un d'entre eux tombe sous les coups de l'autre. Abel, le premier berger, le premier pasteur meurt. Pour nous parler du vrai pasteur qui viendrait, du vrai berger, Jésus-Christ, qui, comme Abel, mourrait. Mais son sang parle mieux que celui qu'Abel, parce que le sang d'Abel réclamait vengeance, le sang de Jésus-Christ obtient le pardon de tous nos péchés. Dieu soit béni pour ce bon berger qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Amen. C'est quand même très étonnant que dès les premières pages de la parole de Dieu, Jésus-Christ soit déjà si présent et son œuvre parfaite de la croix accomplie. C'est une jalousie entre frères qui est religieuse. On dit parfois une jalousie spirituelle, mais en fait la jalousie n'est pas très spirituelle, c'est le moins que l'on en puisse dire. C'est une jalousie religieuse. Comme c'est curieux que pour les choses de Dieu, on puisse en fait au final être animé de mauvaises motivations. Une jalousie religieuse. Je crois que ce qui compte, ce n'est pas de ce que l'autre peut vivre avec le Seigneur, de regarder aux expériences des uns et des autres, mais c'est d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur et de ne pas commencer à laisser rentrer dans nos cœurs de mauvais sentiments comme pour Caïn. C'est une jalousie familiale aussi, hein, puisque ce sont deux frères. Alors peut-être, je m'adresserai à vous, est-ce que avec tous les membres de votre famille, vous êtes dans de bonnes dispositions? Dans cette période-là, Caïn ne voyait pas bien son frère, Abel, et il ne savait pas le voir. Est-ce que vous avez un problème avec quelqu'un de votre famille? Quelqu'un qui peut vous être proche? Il y a parfois des gens assez proches, un frère, une sœur, des beaux-frères, des belles-sœurs, et on a quelque chose contre eux, on n'ira pas chez eux, on ne se verra pas. N'y a-t-il pas là un conflit à cause de quelques jalousies parce qu'il aurait mieux réussi, elle aurait mieux réussi. Nous sommes parfois jaloux de l'argent des autres, de la réussite des autres, mais nous devons faire très attention parce que la jalousie engendre le meurtre dans ce passage. La jalousie ne s'arrête pas là. La jalousie enclenche un processus infernal. Et l'apôtre Jean nous en parle de Caïn. Et il dit « Ne soyez pas comme Caïn ». Il s'adresse à des chrétiens. Il dit « Ne soyez pas comme Caïn ». Donc si nous parlons de ces choses, nous faisons comme Jean le faisait aux chrétiens. Pourriez-vous dire ce matin « Mais c'est la jalousie, c'est loin de moi, ça ne concerne pas forcément nous, les chrétiens, l'Église ». Mais Jean dit aux chrétiens « Ne soyez pas comme Caïn ». Et celui qui est son frère est un meurtrier, nous dit la Bible. Oui, la haine du frère, c'est comme le meurtre de Caïn. Caïn était du malin. Donc la jalousie, ça engendre la haine peut aller jusqu'au meurtre, et puis la jalousie, ben, ça nous amène dans le camp du malin, parce que Caïn était du malin. Voilà pour un premier exemple assez évocateur. On peut se dire, Seigneur, garde-moi, mon cœur peut être jaloux, mais je voudrais surtout que tu me délivres, parce que j'irai certainement de plus en plus loin. On connaît la jalousie des frères de Joseph, on va le lire aussi, s'il vous plaît. On commence par quelques exemples, Genèse chapitre 37, versets 1 à 11. Genèse 37, verset 1er. Genèse 37, verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, pas parce qu'il lui rapportait forcément, mais avant tout parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe, encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie, la jalousie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Alors, il y a du pour et du contre dans ce passage. J'entends quelqu'un dire, écoutez, quand même, Joseph était préféré. On peut comprendre que ses frères en aient souffert et qu'ils aient été jaloux. Tout à l'heure, quand je vous demandais si vous n'aviez pas un problème avec quelqu'un des membres de votre famille, c'est peut-être tout simplement ça. Avoir été moins aimé. C'est pas forcément que votre frère ou que la personne concernée soit particulièrement mauvaise, mais elle a été préférée. Et parfois on souffre de cela jusque tard dans la vie, même assez vieux. Je crois que ce matin, si la parole de Dieu nous parle de la jalousie, c'est pour nous en délivrer. Même si nous aurions de bonnes raisons d'être jaloux. La jalousie est un péché, c'est une mauvaise chose. Même si nous pourrions avoir des raisons d'être jaloux, nous n'avons pas raison de commettre ce péché. Et ce péché, en fait, va vous empoisonner, vous pourrir la vie. Et surtout, vous conduire toujours plus loin dans le mal. Je crois que Dieu veut nous délivrer de toute jalousie liée même à un passé dans lequel vous auriez été victime de préférence, de rejet, que sais-je encore. La jalousie, nous le verrons tout à l'heure, c'est comme un cancer des os. Cela détruit la personne elle-même. Il y a du pour et du contre, parce que là encore, Joseph, le frère haï, rejeté par ses frères, nous parle de Jésus-Christ. Haï des Juifs et rejeté par eux pour qu'il donne sa vie sur la croix en leur faveur. Alléluia. Donc, Joseph nous parle de Jésus-Christ. Il faut faire attention donc de ne pas aller trop loin dans ce passage, de donner toutes les raisons aux frères, parce que Joseph a eu des songes qui venaient de Dieu. Et il y avait aussi cette jalousie de cette relation de leurs frères avec Dieu. C'était aussi là une jalousie religieuse et pas seulement familiale, comme pour Caïn et Abel. La Bible dit que Pilate savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs avaient livré Jésus. C'est pour ça qu'il leur demandera s'ils ne veulent pas qu'il leur relâche Barabbas, parce qu'il savait que c'était par jalousie, il savait que ce n'était pas juste que Jésus ait été arrêté et en procès. Alors il leur a donné la possibilité de demander quelqu'un d'autre, mais la jalousie était plus forte, ils ont crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Mais en tuant Jésus, les Juifs n'ont pas été délivrés de leur jalousie. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, on voit qu'ils font la même chose avec Paul et les chrétiens. Vous savez, quand on est jaloux de quelqu'un, même si on arrive à se débarrasser de cette personne, en ne le voyant plus, ou que sais-je, ou que cette personne déménage, je ne sais pas. Même si on se débarrasse d'une personne, on aura toujours de la jalousie après avec d'autres personnes. Le problème, en fait, n'est pas chez les autres. Le problème est dans notre cœur. Jésus nous a demandé de veiller plus que sur toute autre chose sur notre cœur, parce que c'est de là que viennent toutes les sources de notre vie. Eh oui. Alors, on ne peut pas parler de jalousie sans parler de la jalousie conjugale, hein. C'est bien présent dans notre monde. On va lire dans Nombre, chapitre 5, verset 24. Nombre, chapitre 5, verset 24. Il y avait une offrande de jalousie prévue dans la loi au cas où un mari avait un doute avec sa femme, avait des soupçons qu'elle l'ait trompé. Alors il y a une loi pour encadrer cette jalousie. Nombre, chapitre 5, verset 24. Alors on va lire des choses qui pourront vous sembler peut-être curieuses, mais elles sont pleines de sens. Nombre 5, 24. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux apporteront la malédiction, entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. De là, plusieurs disent que la malédiction dont il s'agit, ce serait qu'elle soit stérile, qu'elle devienne stérile. Telle est la loi sur la jalousie. Pour le cas où une femme, sous la puissance de son mari, se détourne et se souille, Et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Amen. Amen. Alors, il y a une bonne et mauvaise jalousie. Il y a la jalousie légitime, je voudrais le rappeler. Parce qu'ici, voilà un homme qui a des soupçons. Et les deux cas de figure sont envisagés. Que l'homme a effectivement raison, que sa femme lui ait été infidèle, ou que l'homme ait tort, et que la femme était en fait irréprochable. Donc il peut y avoir un cas où le mari a raison d'être jaloux. Il y a une jalousie légitime. Alors, je voudrais rappeler quand même qu'il y a des attitudes douteuses à éviter quand on est marié. D'entretenir avec le sexe opposé une relation trop proche, des messages réguliers. Je crois que quand on est marié, on se doit l'un à l'autre. Et il y a une attitude que nous pouvions avoir célibataires, mais que nous n'aurons plus quand nous sommes mariés. « Il est à moi, je suis à lui », dit le Cantique des Cantiques. Alléluia. Donc, si parfois votre mari ou votre épouse vous fait une remarque en disant qu'elle ou qu'il trouve que là, ce n'est pas normal d'avoir quelques relations trop proches avec quelqu'un de l'autre sexe, écoutez-le, écoutez-la, parce qu'il y a une jalousie légitime. Par contre, il y a une jalousie excessive qui peut détruire le couple. Des couples ont été détruits parce que l'un ou l'autre était si excessivement jalousique qu'il n'y avait que des disputes à partir de pas grand-chose. Alors, cette loi est admirable de bon sens parce qu'elle permettait de mettre un terme à un problème sérieux dans le couple. Il fallait faire quelque chose d'assez incongru pour nous, boire une eau de malédiction, une eau qui produirait l'amertume, si effectivement la personne était coupable. Mais si elle n'était pas coupable, alors il ne lui avait rien de mal et elle était reconnue comme innocente. L'affaire était classée, on ne devait plus en parler. Le mari ne devait plus avoir de soupçons. Dieu soit béni. C'est une loi pleine de sagesse pour mettre un terme à la jalousie excessive et destructrice. Amen. Je crois que nous devons faire attention de ne pas posséder l'autre. Et à un moment donné, vous savez, il faut remettre les choses entre les mains du Seigneur et trouver la paix. Si vous êtes jaloux, rappelez-vous de cette loi qui pouvait permettre à la personne trop jalouse de s'arrêter et de considérer que les choses ont été vues avec Dieu et que c'était entre ses mains. Alléluia. Refaites confiance à votre mari. Refais confiance à ton épouse, même s'il y a eu des doutes, des soupçons. Ce matin, ce message, c'est pour qu'il n'y en ait plus. C'est pour effacer l'ardoise, c'est pour tourner la page, c'est pour s'aimer à nouveau. Amen. Parce que difficile de continuer de vivre ensemble s'il reste un doute. Il ne doit y avoir aucun doute. Le Seigneur est grand, il juge les débauchés et les adultères. Nous pouvons mettre notre confiance en lui et vivre dans la confiance. Parce que la jalousie détruit la confiance. Et un couple dans lequel il n'y a plus de confiance ne peut pas avancer. En conclusion, sur ce point, sur ces quelques exemples, hein, Caïn, Joseph, l'offrande de jalousie, comme je le disais, la jalousie est plus répandue que nous ne le pensons. Lisons dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 4, s'il vous plaît, ensemble. Ecclésiaste chapitre 4, verset 4. Ecclésiaste 4, 4. Et ensuite, nous lirons Tite, chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 4. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Vous voyez, l'Écriture nous dit, c'est un sage, c'est un homme de Dieu. L'Ecclésiaste, ce n'est pas quelqu'un qui a perdu pied et puis qui philosophe avec des fois des paroles qui seraient mauvaises et d'autres bonnes. Non, ce n'est pas le sujet, mais une étude sérieuse de l'Ecclésiaste nous montre que c'est un homme de Dieu du début à la fin. Et il a été un observateur impartial, mais éclairé de Dieu parce qu'il avait la crainte du Seigneur. Et il dit, de son observation, il retient qu'en fait, malheureusement, les hommes, les femmes sont rivaux, concurrents, et que ce qu'ils font de bien, bien souvent, même à leur insu, sans qu'ils s'en rendent compte, est une question de jalousie. De jalousie. Être bien vu, mieux vu. Réussir pour prouver aux autres, pour se prouver. Tout cela est en nous. Et nous avons beaucoup de mal de ne pas être appréciés, critiqués, sous-estimés par rapport aux autres. Souvent, nous vivons par rapport aux autres. L'Ecclésiaste dit l'habileté, l'excellence parfois dans le travail, bien c'est pour faire mieux que les autres. Et les entreprises ont bien compris ce mécanisme. La psychologie du travail en use pour essayer de tirer meilleure parti de ses employés. Et là, on est dans une mauvaise perspective. L'Écriture nous demande que tout ce que l'on fasse, on le fasse pour le Seigneur. Alléluia. Ça, ça change tout. Non pas le faire par comparaison aux autres, mais le faire pour le Seigneur. Alléluia. Cette vie-là, c'est une vie de paix. C'est une vie de simplicité. Et même dans l'Église, bien-aimée, ayant du zèle, mais il est question d'un zèle amer dans l'épître de Jacques. Et ce zèle amer est en lien avec la jalousie. D'ailleurs, le mot zèle est utilisé même pour les dons spirituels, aspirer au don. C'est le même mot que dans 1 Corinthiens 13, quand il est dit « l'amour n'est pas envieux ». Là aussi, il y a un bon zèle et un mauvais zèle. Nous ne voulons pas être zélés dans l'œuvre de Dieu pour faire partie des bons chrétiens, des chrétiens que le Seigneur pourrait préférer. Non, nous voulons avoir une foi agissante par l'amour et pas la jalousie, la comparaison, la rivalité. L'orgueil est un puissant levier, mais c'est un mauvais levier. Par orgueil, on peut faire beaucoup plus. On peut faire énormément de choses et réussir. Mais ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que l'on a fait, c'est pourquoi on l'a fait. Que ce soit pour le Seigneur. Amen. Vivons pour le Seigneur. Ce sera une grande délivrance par rapport à cette vie sans cesse menée au milieu des hommes. J'ai dit qu'on lirait aussi Tite chapitre 3 verset 3. Parce que c'est un résumé de notre vie sans Dieu. Et l'on sait bien que notre vie sans Dieu ressemble, maintenant que nous sommes chrétiens, à notre vie parfois dans la chair. Tite 3, verset 3, il est dit, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservi à toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. Amen. Terrible, mais c'est si vrai. Voilà ce que c'est que le cœur humain. Voilà ce que c'est qu'une vie sans Dieu. Ou ce que c'est qu'une vie chrétienne quand elle est dans la chair. Eh bien, il est dit, le résumé, dans la méchanceté et dans l'envie. Et justement, cela me permettra d'aborder une autre réflexion avec vous. La jalousie soulève le problème de l'envie, de tout ce qu'on a envie. On est souvent jaloux parce qu'on a envie de bien, bien des choses, plus que de ce que nous avons besoin. Alors lisons le 10e commandement, c'est facile, c'est dans Exode chapitre 20, verset 17, un passage bien connu. Exode chapitre 20, verset 17. Le 10e commandement est beaucoup plus élargi que des fautes bien précises. Il touche au cœur. On a parfois dit que les commandements de la loi s'arrêtaient surtout à des faits, mais en réalité, pas du tout. Exode 20, verset 17, il est dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Amen. Alors, bœuf, âne, ça ne veut pas dire grand-chose peut-être pour nous, mais on faudrait peut-être remplacer par voiture, par exemple. Hein? Ça nous parle peut-être un peu plus. J'ai insisté volontairement à chaque fois, son, ça, pour que nous remarquions ensemble que la convoitise est encore une question aussi de rivalité avec l'autre. Et pas seulement dit, tu ne convoiteras pas les bœufs, les femmes, les maisons. C'est pas seulement dit, tu ne convoiteras pas. Mais tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Son bœuf, son âne. Parce que quelque part, notre envie est excitée par notre jalousie. Si l'autre ne l'avait pas, on n'en aurait pas forcément envie. Mais parce que l'autre l'a, il faut le supplanter, le dépasser et obtenir ce qu'il a. Terrible, hein, comment nous pouvons fonctionner. Donc la jalousie est liée à l'envie, et même l'envie est alimentée par la jalousie. C'est terrible. Quelle est la définition du bonheur à l'occidental? C'est beaucoup posséder, avoir, jouir, consommer. Et en fait, c'est très relatif, parce que si vous êtes dans une société où les gens ont beaucoup moins, vous serez très heureux avec beaucoup moins, du moment que vous avez toujours un peu plus que votre voisin. Vous êtes plus heureux que l'autre parce que vous avez plus. Que le Seigneur nous délivre de cette mentalité du monde profondément inscrite depuis notre enfance. Que le Seigneur nous puisse nous donner la grâce de ne pas voir l'autre comme un rival, mais un prochain à aimer. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Nous devons faire pour les autres tout ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Je crois qu'il n'y a aucun chrétien qui vit pleinement ça. Hein. Faire pour les autres tout ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. C'est l'inverse de la convoitise. La convoitise, c'est avoir ce que l'autre a. Vouloir sa vie. Christ a donné sa vie pour nous. Alléluia. Allons un peu plus loin dans le Proverbe 14, verset 30, lire ce que je vous ai cité tout à l'heure, mais c'est toujours bien de le vérifier quand même, sinon je le lirai pour vous. Proverbe 14, 30, il est dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Quelqu'un a rendu ce verset comme cela, « Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. » Une carie, ça fait mal. Enfant, je me souviens, j'en avais, c'était terrible. Je souffrais, et quand on a mal aux dents, on a l'impression qu'on a mal pas qu'aux dents, ça énerve même cette douleur. Elle est dure. Mais alors, imaginons une carie dans tout le corps. La carie des os. Une carie généralisée. Cancer des os, c'est une des pires souffrances. Ça, terrible. Et la Bible dit que l'envie, c'est un cancer des os. Parce que quand on est dans la jalousie, ça pourrit toute notre vie. Ça pourrit l'ensemble de notre existence. Et la paix est en opposition avec l'envie ici. Il est dit un cœur calme. Il est parlé d'un cœur calme, un cœur paisible contribue à la vie du corps. Ça veut donc bien dire que la jalousie et la paix s'opposent. Qu'il ne peut pas y avoir de jalousie et de paix en même temps. Si on est jaloux, on n'aura pas la paix. Un cœur calme et paisible, c'est la vie du corps. Mais en opposition, l'envie, c'est le cancer des os. Quand on est jaloux, on n'est pas en paix. J'ai connu des personnes qui m'étaient d'ailleurs assez proches et j'avais toujours regretté que cette personne qui m'était chère et qui était même un modèle pour moi quand j'étais enfant, était toujours à critiquer les autres parce qu'il était très envieux, très jaloux, alors qu'il avait tout. Qu'il avait tout pour être heureux. Quand on est jaloux, on gâche son bonheur. Quand on est jaloux, on est critique. On fait du mal et on se fait du mal. La jalousie est une mauvaise maladie. Ça n'est pas bon pour la santé de ceux qui la vivent. Il y a plusieurs proverbes et plusieurs psaumes qui nous parlent de ne pas envier le méchant. Si c'est écrit à plusieurs reprises, c'est que cela sera la tendance des chrétiens, pas tous les jours. Mais tous les chrétiens, de temps en temps, quand l'occasion s'y fera sentir, des fois, seront un peu jaloux et envieux de voir que le collègue de travail, alors qu'il fait l'anguille, le serpent, qu'il use de ruse, obtient, arrive à ses fins, et que le chrétien qui parfois est fidèle et méprisé, lui, parfois, n'est pas considéré. Alors là, il y a la tentation de la jalousie. Mais nous ne devrons pas oublier une chose, bien-aimés. Les méchants sont perdus. Nous, nous sommes sauvés. De quoi on va envier les autres? N'avons-nous pas beaucoup plus que tout ce qu'ils obtiennent, même par des manigances? Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils ont, c'est ce que Dieu nous a donné. Amen. Ne sois pas jaloux, ne sois pas jalouse. Je peux le comprendre, hein, comme je le dis, ça arrive à tous les chrétiens, mais ne soyons pas jaloux des inconvertis. Parfois on pense que les inconvertis sont plus heureux que nous, mais je vous assure que c'est une erreur. C'est parce qu'on n'a parfois pas la bonne perspective. Quand on pense que les inconvertis sont plus heureux que nous, c'est plus que nous ne le pensons que nous les jalousons. Et le problème, c'est cette envie qu'il y a dans notre cœur. Alors, la solution, quelle est-elle? Parce qu'on ne peut pas seulement parler du problème, quoique vous avez bien entendu plusieurs solutions déjà dans notre partage, mais je l'ai résumé en deux mots, la joie et l'amour. La joie et l'amour. Parce que je pense que quand on est heureux, on n'est pas jaloux. Amen. Quand on est heureux de sa femme, on n'en veut pas une autre. Quand on est heureux de son travail, quel qu'il soit, on n'en veut pas un autre. Parce que là aussi, c'est une question. Est-ce que l'on peut être heureux de son travail tel qu'il est? Est-ce que d'avoir un autre travail ne nous rendrait pas plus heureux? Je suis persuadé que, avant tout, aimer son travail est une question de contentement dans le Seigneur. Il y a un roi anglais qui disait cela et c'était affiché à l'école biblique, je crois vous l'avoir déjà dit, sur la liste de ceux qui faisaient la vaisselle chaque jour. Ce roi disait, il ne faut pas faire ce que l'on aime, mais aimer ce que l'on fait. Magnifique cette maxime. Ne pas faire ce que l'on aime, mais aimer ce que l'on fait. Et quand on est joyeux, quand on est heureux dans le Seigneur, alors tout change. Mais de quelle joie peut-on parler ? La joie d'être une créature de Dieu. Amen. La joie d'être une créature de Dieu. On dirait, ça veut dire quoi? C'est pas grand-chose. C'est énorme. Parce qu'avant notre conversion, certains souffraient d'anémie, par exemple, ou de boulimie. Ils se trouvaient moches, se trouvaient laids. Mais quand ils se sont convertis, ils ont découvert qu'ils étaient créatures de Dieu. Alléluia. Alors ça change toute la perspective, on ne se compare plus, est-ce que je suis plus beau, est-ce que je suis moins beau, est-ce que je suis maigre, est-ce que je suis fort. Quand on est créature de Dieu, on est heureux d'être ce que l'on est dans son corps. Amen. Même si à cause du péché, parfois, la cigarette ou l'alcool, on peut encore avoir des marques, même converties, des marques du péché d'autrefois, néanmoins, nous avons compris que nous sommes la créature du Seigneur. Et ce corps, alors, nous le vivons comme un don de sa part. Amen. Il n'y a pas que Adam qui a été créé. Nous avons tous été tissés dans le ventre de notre mère. Dieu est notre créateur. Amen. Créature de Dieu. Et alors, cela me suffit. On parle souvent de confiance en soi, d'identité. Tout ça influencé par la psychologie. En réalité, je ne crois pas au remède de la psychologie. Je crois au remède de l'écriture. Nous pourrons vraiment être heureux et joyeux quand tout simplement nous avons compris que nous sommes créatures de Dieu. Alléluia. Alors peut-être que vous ne faites pas 1m95 et vous auriez aimé faire 1m95. Mais si vous êtes né comme vous êtes né, c'est parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Et son nom soit béni. Alléluia. Quelqu'un me dira, trop simpliste ça. Ne trouvez-vous pas que parfois nous sommes bien compliqués ? Créature de Dieu, la joie d'être sa créature, la joie d'être son enfant. Ça veut dire quoi, la joie d'être son enfant? Nous sommes aimés. Dieu est notre Père. Je n'ai jamais connu mon Père et j'ai une relation très conflictuelle avec mon beau-père à cause de la haine qu'il y avait dans mon cœur. Mais quand je me suis converti, j'ai compris que Dieu était mon Père. Alléluia. Ben, je peux vous assurer que ça m'a guéri, tout de suite. On n'a pas tous la même expérience, je ne dis pas que des chrétiens parfois doivent prendre un peu plus de temps pour comprendre certaines choses, mais moi c'était un tel besoin d'avoir un papa, que quand j'ai découvert que Dieu était Abba Père, alors j'ai été comblé de son amour, de cet amour qui m'a toujours manqué. Alléluia. On peut être joyeux, parce que Dieu nous aime, nous sommes ses enfants. Et peut-être, vous n'avez pas été aimé par votre père, par votre mère, mais la Bible dit, quand bien même, si mon père, si ma mère m'abandonne, l'Éternel me recueillera. Alléluia. Peut-être vous n'êtes même pas aimé par votre mari ou par votre femme. Et ça, je pense que Les pires souffrances, c'est les souffrances du couple, me semble-t-il. Parce que c'est une déchirure. On est un. Et quand on est en souffrance en couple, ça, c'est, on se déchire soi-même. C'est terrible. Mais je crois qu'un mari mal aimé, qu'une femme mal aimée, peut trouver sa joie dans l'amour de Dieu. Alléluia. Vous savez, je le disais tout à l'heure, nous faisons beaucoup trop attention à ce que les gens pensent de nous et disent de nous. Et quand les gens nous disent « je ne t'aime pas », quand les gens nous disent « tu es nul », quand les gens nous disent « tu ne mérites pas de vivre », on finit par le croire. Parce que nous dépendons trop des hommes. Apprenons à dépendre de Dieu, du Seigneur, sans mépriser les autres et vivre en s'isolant. Mais ce qui compte avant tout, c'est que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Dieu nous aime. Et ça, cela nous guérit de tout ce que l'on a pu vivre. Son nom est béni. La joie d'être justifié, qu'est-ce que c'est la joie d'être justifié? D'être défendu. Dieu nous défend par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Alors peut-être vous pouvez être attaqué, vous pouvez, mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dieu soit béni. La justification nous permet d'être joyeux. Puis la joie du salut, quand même, on l'oublie parfois. Vous savez, des fois, en tant que chrétien, on est triste. Cette semaine, je continue de lire un commentaire sur l'Apocalypse. Et là, c'est pour ça aussi que c'était dans ma prière tout à l'heure. Je suis arrivé aux nouveaux cieux, aux nouvelles terres, à la description de la nouvelle Jérusalem. Wow. C'est fantastique. Alors, pas fantastique dans le sens des films où ça n'existe pas, parce que ça existe vraiment. Alléluia. Mais c'est fantastique dans le sens, quand on comprend un peu mieux le symbolisme de ces choses, on se dit, mais Dieu soit béni. Quelle espérance glorieuse. Alléluia. Et on se surprend des fois d'avoir un rire, d'avoir une joie quand on lit ces choses. On est émerveillé. Merci Seigneur. La joie du salut. C'est réel, vous savez, on n'est pas chrétien pour maintenant, hein. On est chrétien pour l'éternité. Gloire à Dieu. Bon, la joie, l'amour, je l'ai dit tout à l'heure, la charité n'est point envieuse. Mais en fait, est-ce que j'ai raison de dire que la solution, c'est la joie et l'amour? Quand dans la Bible, c'est plutôt écrit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie vient après l'amour. Parce que je crois qu'effectivement, on ne peut pas avoir de joie sans amour. L'amour engendre la joie. Alors, on n'a pas le temps ce matin peut-être, mais il y aurait eu ce point, ce qui accompagne la jalousie. On va lire un seul passage. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 12, 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Vous avez vu ce qui va avec la jalousie? C'est impressionnant, hein? Querelles. Animosité, rivalité, médisance, calomnie, orgueil, trouble. Il y a d'autres passages que nous n'aurons pas le temps de lire, c'est 1 Corinthiens 3:3, Galates 5:20, 1 Timothée 6:4, où on voit que en fait la jalousie est comme un wagon dans le long train de la méchanceté. Et que la jalousie, en fait, ici à la fin, c'est pour ça que j'ai sélectionné peut-être ce verset par rapport aux autres, on en arrive à des troubles. Des troubles. Ici, c'est une question de relations sociales, du vivre ensemble, du vivre avec les autres. Mais ce qui accompagne la jalousie, c'est pas beau. Quand il y a... Alors, on peut réfléchir, on peut se dire, que s'il y a les autres choses, il y a peut-être plus qu'on ne le pense de la jalousie. Quand il y a des troubles, quand il y a des animosités. Ah oui, je crois que les péchés, souvent, un train peut en cacher un autre. Hein? Un péché peut en cacher un autre. Je termine avec Galates chapitre 5, versets 25-26, s'il vous plaît. Galates chapitre 5, versets 25-26. Je ne m'arrête pas sur ce qui accompagne la jalousie. En le lisant personnellement, cela m'a intéressé, mais ce serait trop long. Galates chapitre 5, verset 25. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je suis rempli de l'Esprit, je vis par l'Esprit, mais il faut vivre par l'Esprit. Il faut avoir une attitude qui corresponde à ce que nous disons de l'Esprit. Alors voilà ce dont il est question. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Et alors, en même temps, ces dernières semaines aussi, petit à petit, je lis des choses sur l'Épître aux Galates. Et en méditant, je me suis rappelé de ce que j'avais lu ces dernières semaines. Alors, je vous le lis. C'est de John Stott sur ce verset Galates, chapitre 5, verset 26. Alors, déjà, j'ai surligné. Je vous lis ce que j'ai surligné. Notre conduite envers les autres reflète notre opinion de nous-mêmes. J'ai surligné. Notre conduite envers les autres reflète notre opinion de nous-mêmes. Alors après, quand nous sommes orgueilleux, soit nous provoquons les autres, soit nous les envions. Parce que parfois, quand on envie les gens, on ne pense pas qu'on est orgueilleux. On se dit, ben non, je les envie parce que moi, je suis nul. Mais lui, il dit cela. Alors, il parle d'un mot grec dedans. Il dit, il signifiait, hein, provoquer, signifie défier quelqu'un à se battre. Défier quelqu'un à se battre. Si certain de notre supériorité que nous poussons les autres à la contester, afin d'avoir l'occasion de la démontrer. C'est se provoquer. Provoquer pour montrer qu'on est plus fort. Nous sommes motivés soit par un sentiment d'infériorité, c'est la jalousie, soit par un sentiment de supériorité, c'est la provocation. Supérieurs aux autres, nous les provoquons, car nous voulons qu'ils sachent et qu'ils ressentent notre supériorité. C'est fou quand même. Si au contraire, nous les considérons comme supérieurs, nous les envions. Et il termine en disant, nous ne pouvons supporter aucun rival. C'est terrible ce tableau qui est dressé. Que le Seigneur nous renouvelle pour vivre selon l'Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous éloignera de cette jalousie ou de cette provocation, mais pourra seul nous conduire dans l'amour et la joie. Alléluia. Voilà quelques réflexions sur la jalousie. Comme je le disais, je crois sincèrement que nous sommes tous concernés, pas un plus qu'un autre, ou une plus qu'une autre. Et si Dieu fait la lumière, vous savez ce qui se passe, les ténèbres, elles sont chassées. Alléluia. Parce que parfois, ce matin, je me suis dit, mais pourquoi dénoncer la jalousie? Je me suis rappelé de ce texte des Éphésiens. Dénoncer les œuvres des ténèbres, parce que ce qui paraît à la lumière devient lumière. Amen. Que Dieu le fasse.